Salut Quentin, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation.
Salut Eric.
Salut. Pour nous parler de ton jeu animé Was a Mistake. Et avant de parler de ce formidable jeu, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi, que tu nous présentes ton parcours rôliste, comment t'es venu au jeu de rôle, et ton amour pour les mangas, d'où tout cela te vient, afin qu'on te connaisse un peu plus.
Alors, moi je suis Quentin, bonjour. Je suis rôliste depuis quasiment 15 ans, 20 ans, je sais plus en fait, mais par là, à peu près. J'ai un parcours rôliste tout à fait standard, comme beaucoup. J'ai commencé à jouer au Warhammer, comme tout le monde. Puis après, j'ai voulu jouer à un jeu de rôle, un jeu dans lequel on incarnait son propre personnage. On créait son propre personnage, et puis le vendeur, il m'a doucement indiqué le bouquin de Warhammer V1, qui à l'époque était essentiel pour jouer, et donc on a joué à ça pendant des mois, et puis après on se dit ouais, Warhammer c'est cool, mais nous on est un peu comment dire, on veut se mettre ça y est, j'arrive plus à parler, tu comprends, hein. on veut se démarquer, tu vois, alors on va créer notre propre jeu de rôle, tu vois. On va créer un jeu de rôle sur l'univers de Confrontation, le jeu de figurines. Parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé, il y avait Confrontation qui arrivait à concurrencer Games Workshop en faisant un jeu pas cher. Voilà. Donc nous, on s'est dit, on va développer l'univers à partir des stats qu'on a, parce que Confrontation, donc Rackham, proposait pas grand-chose. Puis après, je me suis dit, tiens, ouais, non, les wargames, c'est cher, c'est chiant, c'est long. Je vais faire un jeu de rôle sur StarCraft. J'adore StarCraft. En plus, il y a des profils, et puis je vais pouvoir faire des screenshots, et puis je vais pouvoir bricoler des feuilles de perso. Et puis de ça, ben, j'ai appris à faire de la mise en page. De ça, j'ai poussé un peu plus mon développement de jeu. Et puis bizarrement, dans StarCraft, il y a les Zergs.
Je vois où tu veux en venir.
Et oui, mais du coup, pratiquement 10 ans plus tard, ben, j'écris La Couvée, un jeu de rôle dans lequel on joue une bestiole de l'espace. Avant ça, j'ai sorti mon univers à campagne, enfin mon jeu à campagne qui s'appelle Vivere, donc un univers de space fantasy. Et puis après j'en arrive à animer Was a Mistake. Voilà. Grosso modo, mon parcours rôliste. Évidemment, au milieu de tout ça, j'ai joué hein, à plein de trucs. Et j'en ai défini plus ou moins ma ligne directrice de rôliste, en fait, ma façon de jouer. C'est plus ou moins, on se prend pas la tête avec les règles. Donc il y a des règles, parce que j'aime bien jouer avec des règles, parce que je viens du wargame. Mais faut pas pousser mémé dans les orties, parce qu'il y a quand même grosse partie des règles qui servent à rien. On va quand même essayer de jouer avec un minimum de règles, mais pas avec des usines à gaz, ni passer 3 plombes à créer un perso, parce qu'on est aussi là pour manger des pizzas, hein, que ça va refroidir. Voilà.
Et du coup, Anime Was a Mistake, c'est un jeu qui va nous permettre de faire tout type de manga, animé, tout un tas de genres divers et variés.
C'est le but.
Et du
on
coup,
essaye.
Bah du coup, comment tu vas réussir, moi je pense que tu vas réussir. Comment tu mets ça en place en fait? Qu'est-ce que tu proposes pour justement essayer de balayer tous ces genres, que ce soit le shonen, le shoujo, la romance, le super-héroïque?
En fait, le jeu, faut le voir comme un peu comme un GURPS, tu vois, c'est un jeu modulaire. C'est-à-dire que tu as une mécanique de base, un cœur, dans lequel, on peut dire même un kokoro, parce que si on veut rester dans le japonais, on peut pousser les trucs jusque-là. Mais donc tu as un cœur de système qui est juste basé sur trois éléments. Et sur ce cœur vont se greffer deux choses. Le premier, c'est ce qu'on appelle les gimmicks. Donc c'est une mécanique pour créer ou pas, parce qu'il y en a des prédéfinis ou non. C'est en fait des bonus que tu obtiens dans le jeu, via des conditions narratives ou des conditions ludiques. Par exemple, c'est au moment où ton personnage perd un point de vie, tac, tu gagnes un bonus. Et il y a un tableau pour échelonner un peu la valeur de chaque élément, et donc obtenir un bonus qui sera plus conséquent si tu décides que les conditions pour l'obtenir sont plus conséquentes. Donc ça peut être fatal, puisque ça peut être genre un gimmick ultime qui t'inflige 4-5 pertes de points de vie, donc 5 blessures d'un coup, et du coup tu envoies le pâté derrière, ou alors c'est juste des gimmicks un peu plus narratifs, genre tu attends d'être en présence d'une foule, ou tu attends que ça soit la pleine lune, ou il faut absolument que ton action soit faite pour protéger un adversaire, ou pour protéger un adversaire, protéger un ami, ou protéger un adversaire, enfin ça peut arriver, hein. Il y a des tarés, c'est possible, tu peux le faire. Mais voilà, tu définis tes conditions et tu obtiens le bonus conséquent. Donc c'est en fait l'idée, c'est de développer un bonus mécanique, de récompenser le joueur d'un point de vue règle par des soit des interventions roleplay, genre crier le nom de son attaque, mimer son truc, ou je sais pas moi, attendre la bonne situation, ou faire le roleplay du flashback en question, enfin voilà, tu peux greffer un peu tout ce que tu veux narrativement dessus, et donc avoir un boost dans les règles pour que ça soit plus sympa au moment du lancer de dés, quoi, pour résoudre. C'est quand même plus sympa de lancer des dés pour résoudre les actions, moi j'aime bien. Et enfin, le deuxième truc, c'est ce que j'appelle le bento. Et le bento, c'est la boîte à outils qui contient plein de petits modules de règles, système de points de destin, système d'attrition, système d'XP qui varie un petit peu selon les ambiances. Et donc, c'est des petits modules de règles qui vont se greffer à différentes ambiances de jeu pour justement donner encore plus de sens à ce cœur de règles qu'on a au départ et lui donner un peu plus de goût par rapport à l'univers que tu veux jouer. Voilà. Si tu veux des objets qui cassent, tu peux prendre le bento avec les objets qui cassent. Si tu veux plus d'émotion, tu peux rajouter le bento avec le système d'amitié où il va falloir jouer sur la camaraderie et essayer de faire toutes les scènes un peu sympas de tiens, on va à la plage, ou tiens, si on allait au resto. Bah, tu vois, ces petites scènes qui paraissent un peu anodines comme ça, mais qui sont essentielles. D'ailleurs, je donne un grand coup de cœur aux épisodes filler qu'on déteste tous dans Anime with a Mistake, parce que c'est essentiel dans un jeu de rôle comme ça de jouer ces scènes, ces épisodes qui servent à rien pour justement créer des trucs en partie, et notamment du lien entre les personnages et de l'histoire. Voilà, les fillers, pour moi, ça sert à ça.
Du coup, tu parles de fillers, ça veut dire que Anime with a Mistake, c'est un jeu que tu vois plutôt pour la campagne, même si moi j'ai testé en mini-campagne, ou alors ça marche aussi très bien en one-shot, mais ces histoires de fillers pour pouvoir installer des choses pour plus tard, j'imagine que c'est quelque chose qui va mieux marcher en campagne. Comment est-ce que tu vois ton jeu, plus campagne, one-shot, les deux? Comment tu préfères le faire jouer déjà?
Alors moi, je suis très expérimental, en fait. Moi, j'adore passer du coq à l'âne, j'arrive pas à rester... Ouais, cette expression, elle est violente. Passer du coq à l'âne pour rien. Moi, j'aime bien changer de jeu, j'aime bien changer d'univers, j'aime bien changer de système. Et donc, du coup, quand je crée un jeu, j'aime bien proposer un jeu qui soit, multiforme, en fait, qui propose plein de possibilités avec le même système, sans jamais vraiment trop quitter la thématique. Tu vois, j'ai fait la couvée avec des univers différents, donc je vois un alien dans des univers différents. Avec l'anime aux Mistakes, c'est pareil. Tu peux soit tout mélanger parce que tu t'en fous de la cohérence, soit tu joues des thématiques brutes, comme du Magical Girl, comme du Shonen Neketsu bien classique, parce que tu as un univers en tête et tu as envie de le faire jouer. Soit tu fais jouer du drama pur, soit voilà, tu fais vraiment, tu choisis la sauce que tu veux et tu joues ton truc. Que ça parte en campagne ou que ça reste du one shot, c'est à toi de voir. On a fait, donc forcément, le shonen se prête plus à la campagne parce que c'est des trucs qui s'étirent, qui sont à rallonge, et le drama se tire plus sur du one shot, sur 2-3 épisodes. Naturellement, il y a des formes de parties et d'univers qui vont tirer sur certaines ambiances plus facilement. Mais toi, t'es libre de faire ce que tu veux. Tant que tes joueurs accrochent, t'es libre de faire ce que tu veux.
D'accord. Voilà. Et du coup, je me rends compte que j'ai même pas parlé du cœur d'Anime with a Mistake. On n'a pas expliqué comment ça marche. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la base, quoi? Comment est-ce qu'on crée un personnage? Comment est-ce qu'on résout une action?
Ouais. Alors, mais la base des règles, elle est simple. J'aime pas dire ça, mais je le dis quand même. C'est que t'as trois éléments. Les scores qui servent de caractéristiques à ton personnage. Voilà, donc tu as un score de physique, un score d'intelligence, un score de perception et un score de sociabilité. Voilà, ça sert pour définir les forces de ton personnage et aussi ça servira pour les points de vie. Mais ça, on verra plus tard. Ensuite, tu as ce qu'on appelle les atouts, qui sont les caractéristiques principales de son personnage, son sabre, sa technique secrète, sa compétence, est-ce qu'il est bon à l'école, est-ce qu'il sait sauter par-dessus les immeubles, est-ce qu'il sait voler, est-ce qu'il envoie des boules de feu, est-ce qu'il se sert de son fusil à plasma, est-ce que tu veux. Ça peut être des implants cybernétiques, ça peut être des armes, ça peut être des familiers, ça peut être le méca, ça peut être des atouts. Voilà, c'est une grande poche dans laquelle tu mets plein de trucs. Et après, les atouts, il y a les gimmicks, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, en gros, la règle, c'est t'as un dé pour le score. Plus ta caractéristique est forte, plus t'as un dé avec des faces dessus. Donc, ça va de D4 à D12. Et les atouts, ils ont aussi leur dé. Donc, tu jettes un dé pour le score, un dé pour l'atout et un dé pour le gimmick. Et potentiellement, les gimmicks peuvent se cumuler. C'est-à-dire que tu peux avoir plein de gimmicks qui s'activent en même temps pour justement donner ce côté complètement fou de on a tout cumulé pour ce jet de dé, ça va être trop fort. Voilà.
Je sais plus si les atouts se cumulent, ils ne se cumulent pas les atouts.
Alors les atouts, ça dépend du bento que tu joues. Par défaut, les atouts ne se cumulent pas. Bon, pour éviter les persos overcheatés dès la création de perso. Mais si tu veux, tu peux. C'est-à-dire que ça fait partie des bento, qui s'appelle No Limit, qui dit si tu joues en Shonen Neketsu, allez on y va. Ça se cumule et on envoie la sauce.
Ouais, donc tu en fais gros, du One Punch Man, toi.
Ouais, voilà, tu fais du One Punch Man. On parlera plus tard de ça aussi. Un peu particulier. En gros, voilà, t'as un score, on va dire, de force. Voilà, t'as force à D6, ce qui est pas ouf. T'as ton atout d'épée, parce que t'as d'escrime, parce que t'es bon à l'épée. Donc t'as 2 D6 à lancer, parce que l'atout te donne D6, on va dire. Et puis t'as un gimmick de technique spéciale de je sais pas quoi, qui te coûte, pour 2 points de fatigue, te rajoute, c'est quoi, c'est un D8. Donc tu vas lancer 2D6 et 1D8. Boum, pour ton jet de dé. Mais tu prendras 2 points de fatigue à la fin de l'action.
Et j'imagine que tu as un score à dépasser qui va dépendre de la difficulté que le ou la MJ te donne en face.
Ouais, tu additionnes les dés et il faut faire gros.
Voilà. C'est simple.
C'est simple, ouais. Et par contre, chaque fois que tu fais un multiple par rapport à la défense adverse, donc si tu fais le double, le triple, le quadruple, le quintuple, même plus... c'est un critique. C'est-à-dire, admettons, tu fais un dégât sur un double, tu fais un dégât de plus. Sur un triple, tu fais 2 dégâts de plus. Tac, 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 tac. Bon, en gros, sur un double, tu fais 2 dégâts, sur un triple, tu fais 3 dégâts, etc. etc.
Voilà. Et puis, en cumulant les gimmicks, les atouts et en ayant un peu de chance, il y a moyen de faire des grosses explosions d'immeubles.
Ah oui, mais si l'ennemi se foire, on a déjà vu des cas où on faisait 12 blessures parce que le mec il avait fait 1 en défense et en face il en fait 12. Voilà.
Et donc le personnage, en général, combien on prend de blessures avant de mourir pour avoir un ordre d'idée de 12, combien, à quel point c'est beaucoup.
Par défaut, un héros de base à la création de personnage il a 11 points de vie.
D'accord.
Voilà. Mais c'est un héros. Tu vois, on définit les héros. Tout ce qui est sous-fifre, sbire, petit machin insignifiant, les mobs de base, ils ont quoi? Ils ont 2 points de vie, 4 points de vie. Quoi. C'est vraiment pour définir des niveaux de menace. Parce que ce qui fait aussi la dynamique un peu cliché du jeu, c'est qu'on n'a pas des profils d'ennemis. Tu vois, je ne veux pas lister tous les ennemis possibles dans tous les mangas. Pour le bestiaire, j'ai juste des classifications de personnages. Donc tu as les sbires, les insignifiants, les sbires, les héros, t'en as un intermédiaire, j'ai oublié son nom, t'as les boss, t'as les boss finaux, et puis t'as les arc-boss. Voilà, si tu veux vraiment...
Les arc-boss, c'est la forme finale du boss final, c'est Freezer quand il se transforme...
C'est pire que ça. Le boss final, c'est un peu... c'est la deuxième forme du boss, si tu veux, mais l'arc-boss... C'est le dieu qui était au-dessus de ton boss final.
D'accord.
C'est Cthulhu, quoi. C'est le truc imbattable.
Mais qu'on met quand même là pour que les joueurs s'amusent à essayer de le battre.
Ouais, et des fois ça arrive.
on sent le MJ un peu. C'est ça qui est triste.
Non, mais c'est bon, quand ça se produit, c'est super bon. Parce que l'idée, c'est d'être dans cette dynamique-là. Et les gimmicks, ils sont là pour encourager ça. C'est pour ça qu'il y a cet empilement de dés et de bonus. Le jeu, c'est il faut faire gros et il faut décrire de plus en plus épique quand tu fais gros. L'idée, c'est de décrire l'écart entre les résultats ou juste la puissance d'un résultat obtenu et le côté ridicule. En gros, tu décris une méga boule de feu parce que l'adversaire, enfin ton personnage a fait un score, on va dire, de 21, un truc de fou pour faire son Kamehameha, tu vois. Donc tu fais la super méga boule de feu qui arrive, et puis tu as ton adversaire en face qui fait 22 en défense. Tu décris comment? Tu vois, l'idée, c'est de décrire un truc encore plus épique ou alors complètement insignifiant pour justement renforcer narrativement le résultat du dé. Le but, c'est pas juste de lancer des dés parce que ça sert à rien. Le jeu, il va encourager les descriptions, enfin, c'est, je pense, encourager à faire des descriptions autour de ces jets de dés. Justement, pour rendre tes combats dynamiques parce que t'as envie de faire gros. T'as envie de faire gros parce qu'on te raconte une histoire avec ces jets de dés.
T'as envie de faire gros, et pour l'avoir playtesté en mode crossover avec toi, t'as aussi envie d'utiliser tes atouts, tes limites. T'as envie que le gimmick que t'as créé ou que l'atout que t'as créé, il soit utilisé. Quand t'as l'épée du démon, t'as envie qu'à un moment, l'épée du démon, le démon, il sorte et puis il fasse des trucs. Et puis t'as une espèce d'émulation comme ça qui fait que effectivement t'as envie de faire briller ton personnage, et ça passe par tous ces trucs-là. Par contre, il y a parfois une petite frustration quand tu fais vraiment pas beaucoup, parce que du coup, ton épée démon, bah... Tu oublies, mais ouais. Bon, c'est le jeu.
Ça arrive.
Ça fait partie du jeu.
Oui. Après, on n'a pas eu de chance. Hein. On a un lanceur de dés sur Discord qui est particulièrement farfelu, qui est hors stat, mais ça, c'est pas grave.
Ça nous a pas empêché de nous amuser quand même. En parlant de Discord, ça s'améliore un petit peu. En tout cas, chez moi en France, là, c'est moins confiné. Mon club de jeux de rôle, il a rouvert et tout, mais. Nous, on a joué beaucoup en ligne parce que confinement, pandémie, tout ça, et puis on a fait ça sur Discord avec le bot. Et puis moi, je me rappelle, j'avais mon personnage dans un Notepad plus à côté. Est-ce que t'as pensé à faire des choses pour du Roll20, du Foundry ou du Let's Roll? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse déjà? Que tu fasses pas parce que t'as pas les nerfs, parce que t'as pas les compétences. Après, il faut voir quelqu'un qui peut te le faire. Mais est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou pas plus que ça?
Non, pas plus que ça. Parce que moi, je suis un joueur, je joue sans VTT, moi. GG, ça fait 2 ans qu'on joue avec Discord, juste, et je suis pas intéressé par les VTT, en fait. Je sais que ça sauve le monde et que ça fait plein de trucs, mais j'ai pas envie.
C'est un jeu qui est pas encore sorti, qui est déjà richement illustré, tous les jours sur tes pages, sur ton Twitter, sur machin, tu nous montres des trucs magnifiques, et du coup je voulais parler un petit peu de comment ça fonctionne, en fait, parce que moi ça m'arrive d'écrire des jeux, et c'est pas facile, c'est pas toujours facile, tu vois, de trouver des illustrations... soit de trouver des gens avec qui travailler. Moi, je sais que Guillaume, c'est un ami, donc je suis allé directement vers lui, puis je lui ai commandé l'illustration pour mon jeu de rôle Starlight, là, mais ouais. Comment ça se passe? Et puis montre-nous des trucs aussi.
Alors, comment ça se passe? En fait, c'est un peu du démarchage, en fait. C'est-à-dire que tu contactes des illustrateurs, tu leur dis, voilà, j'ai ce projet-là, je cherche des gens, montrez-moi vos books si vous êtes intéressés. Et puis on discute un peu tarif, on discute un peu... voilà. Moi, mon but, c'est pas que l'artiste se sous-paye, c'est qu'il me propose ses prix. Et si je peux me le payer, ben, je me le paye. Si je peux pas me le payer, je me le paye pas. Voilà. Et tant pis, je passe à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc il y aura toujours des gens qui vont se sous-payer. Ça, c'est le problème. Je peux pas dire que c'est leur problème. C'est un peu moche, mais voilà, moi je suis aussi je produis mes trucs, donc pour l'instant je fais ça sur mes fonds perso. J'ai pas encore fait de financement participatif. Il reste une quarantaine d'illustrations à produire. Ça n'a pas l'air comme ça, mais il en reste 40, donc on en a fait un tiers à peu près, un peu plus d'un tiers, mais voilà, il en reste une quarantaine, d'entre les chibis, la couverture, les illustrations pour le scénario, etc. Donc c'est quelque chose qu'en fait tu planifies, c'est-à-dire que déjà, tu te fais ton chemin de fer de ton bouquin, donc chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, petit point 1, petit point 2, etc. Tu visualises à peu près, au bout d'un moment, où est-ce que tu as des vides, où est-ce que tu as besoin d'un schéma, où est-ce que tu as besoin d'une illustration clé pour illustrer ton truc, et tu te fais une liste de tout ce que tu as besoin. Et à la fin, tu sais tout ce que tu as besoin. C'est pas juste te dire, ah là, il y a un trou, je vais remplir. Non, c'est vraiment décider à quel endroit c'est pertinent de mettre une illustration, c'est aussi important, et décider quelle illustration tu vas mettre. Parce que si c'est juste pour mettre des pin-up aux quatre coins des pages, ça sert à rien de faire des illus. Dans un JDR, t'as besoin d'illustrations de décor, t'as besoin d'illustrations de scènes, quotidienne. Tu as besoin de héros, tu as besoin d'action, tu as besoin de moments un peu intenses. Si tu fais un jeu de rôle contemplatif, tu fais des paysages, tu vois, des trucs un peu lugubres, un peu lunaires. Mais si tu fais un jeu de rôle, ben là, comme moi sur les mangas, j'ai besoin d'illustrations dynamiques, colorées. Je peux pas choisir n'importe quoi. Et surtout que ça fasse manga, parce que je dis ça parce que j'ai vu beaucoup de jeux de rôle manga avec les illustrations qui tirent vers le comics, c'est juste...
Dommage.
Ils connaissaient rien, les gars, ils connaissaient rien.
C'est de la BD voilà. Étrangère, c'est pareil.
Bah ouais, non, mais c'est... Oui, voilà, c'est étranger. Non, mais c'est pas facile. Et donc trouver, et encore plus dans le manga, parce qu'il y a énormément d'artistes qui se disent « Ouais, moi je dessine des mangas, je fais des trucs géniaux, etc. » Ben très souvent, ils sont spécialisés. Très souvent, ils savent faire que des personnages. Très souvent, ils savent faire que des filles. Bizarre. Très souvent, il y en a, ils savent faire que des mechas. Et très très rarement, il y en a qui savent dessiner de la bouffe. Trouver un illustrateur qui dessine
faut
de la bouffe
en plus. C'est vrai qu'avec le bento et tout, il faut de la bouffe.
J'aurai une illustration de bouffe. Bah, je vais montrer des trucs.
Du coup, ouais, du coup, tu démarches pas des personnes en particulier. C'est vraiment, tu parles de ton projet, tu dis que tu as besoin d'illustration. Ça t'arrive pas de dire, tiens, toi qui connais des mangas, qui aime les mangas, ça t'arrive pas de connaître un artiste et puis d'aller lui dire, en fait, je sais que tu fais du manga, tu fais du machin et que ce que tu fais me plaît énormément.
Je l'ai fait, mais c'est hors de prix. Un artiste manga, déjà, un, il a pas le temps. Et de deux, c'est hors de prix.
D'accord.
Hors de prix par rapport à notre marché. Je veux dire, le prix d'une planche de manga, c'est un truc. Astronomique. Voilà. Alors quand tu sais qu'un artiste, tu vois, d'animation japonaise classique, c'est le mec qui est payé 800 euros par mois, qui va faire toutes les images entre deux images clés, donc toutes les transitions, il est payé à 1,5 euros la planche, grosso modo. Ça arrondi. Hein.
Ouais.
Ça pique. Ça pique. Bref, passons ça. Non, ce que je fais généralement, c'est que je tape dans Twitter. Je tape Gundam fan art si j'ai besoin de mecha.
Ah, ou, et tu vas voir, dis attends, les gens là. Qui font ces fan art là.
Et je cherche des professionnels, des gens qui ont des traits qui me plaisent. Je regarde s'ils acceptent les MP.
Commission. Parce
que c'est comme ça qu'ils les commissionnent. Je leur demande combien ils prennent. Je leur parle du projet. Je leur dis est-ce que vous êtes prêt à partir sur X commission pour temps, etc. etc. Et on s'arrange ensemble.
Okay.
Et des fois il y en a qui répondent oui, des fois il y en a qui répondent non, des fois qui répondent oui mais c'est trop cher, des fois il y en a qui répondent oui c'est génial mais ils font des trucs tout moches, enfin tout moches. Voilà, j'ai pas leur talent, mais
qui te conviennent pas.
Des fois ça me convient pas et des fois ça te convient juste pas. Des fois c'est juste pas du tout ce que tu cherches. Par exemple, c'est pour ça que ils sont 5 illustrateurs sur le bouquin. Je déteste faire ça. Pour la couvée ils étaient 3. Parce qu'on a dû en prendre 2 en béquille pour rattraper, pour terminer. Mais depuis le début du projet, ils sont 5, ils vont peut-être même être 6. Parce qu'en fait, on a un artiste principal qui fait les chara-design des personnages qui seront ensuite déclinés dans le bouquin. Mais la subtilité, c'est que j'en ai un au chara-design et au pré-tiré, j'en ai un au décor, j'en ai un au mecha, j'en ai un au chibi, et je vais peut-être en avoir un pour le bestiaire. Et j'en ai un pour les poses d'action. Pour les poses dynamiques.
C'est pas le même que le character design, du coup.
C'est pas pareil. Je vais vous montrer. Je te montre. On va dire ça. Hop. Donc, techniquement, il y a ça.
Là, je vois.
Voilà. Donc, ça, c'est un pré-tiré qui a été fait par un de mes artistes, Xerehain, qui m'a fait donc le personnage et le fond qu'on a derrière. Qui sera décliné pour pas mal de trucs. Moi, j'ai fait tout le reste, donc la typo, les couleurs, les machins, les trucs. Et on part là-dessus. Et donc, j'ai un artiste qui me fait ça. Et si on regarde ensuite, si je vais dans mon dossier ici, j'ai un artiste qui s'occupe des chibis. Et donc, on a
c'est le même personnage, mais en version chibi.
En version chibi. Voilà. Pour un exemple d'illustration de décor, on est sur quelque chose de complètement différent, mais on est sur du décor.
Oh oui, c'est différent. Alors,
j'avoue que ça tranche hein, d'un point de vue style.
J'ai l'impression que ça fait moins manga.
Oui, l'artiste
ça fait
a
presque
un trait,
estampe japonaise.
Ouais, c'est voulu. C'est voulu. L'artiste a un trait relativement, comment on veut dire, réaliste. Je ne peux pas dire réaliste, mais c'est un peu ça. Et voilà. Donc là, il y a une référence. Hein, si vous l'avez, vous l'avez. Sinon, si vous l'avez pas, il va falloir aller lire des mangas. Voilà, voilà. Je fais mon petit.
Et ça donne quoi, une pause d'action du coup?
Une pause d'action. Alors,
ouais. Une pause d'action dynamique.
Il est là, il est là.
T'as les princesses Disney qui font du jeu de rôle toi aussi.
Ouais, ouais, parce que j'avais besoin de montrer une séquence bento, voilà. Donc ça, c'est une pause dynamique.
D'accord.
Par exemple. Donc on a de l'action. Il y aura encore plus dynamique, évidemment, puisque je prévois d'autres illustres. Donc ça, c'est juste une préparation d'un coup d'épée, parce que le but, c'est d'illustrer le système de combat.
Voilà. D'accord.
Vous pouvez faire de la bagarre et des machins. Donc là, voilà. Et donc c'est ce personnage-là, à la base, il est en pré-tiré dans le jeu. Et que je vous la montre. Elle est là. C'est elle. Voilà. Donc elle a bien été designée ici.
Ok.
Et ensuite déclinée dedans, en version chibi, en version action. Voilà, version chibi, on l'a ici par exemple. En plus, tu peux avoir un aperçu de l'intérieur du bouquin. Ce sera comme ça. Voilà.
Ah, c'est vraiment chouette.
Donc voilà, après, il y a toute cette réflexion de qu'est-ce que tu veux pour chaque page qui est super importante d'un point de vue éditorial, on va dire, parce que c'est le boulot d'un éditeur aussi de réfléchir à ça. Parce que si tu laisses tes artistes en roue libre, ça arrive, hein, des fois. Tes artistes, c'est des copains. Et tes copains, ils dessinent un peu ce qu'ils veulent, comme ça, au fur et à mesure des parties. Et du coup, à la fin, tu te retrouves avec un bouquin comme Robot, première édition, où il n'y a que des illustrations de personnages. Zéro décor, zéro action, zéro mise en scène, rien. Voilà. Donc, parce que les personnages, c'est cool pour des prêts-tirés, mais après, on s'en fout un peu.
Ouais, après c'est bien
d'avoir... Ton univers, il vive, tu vois, et il vit au travers des actions, des illustrations.
Ouais, du coup, dans ton process, ça, c'est quelque chose que tu fais à quel moment? T'avais déjà écrit complètement le jeu, les illustrations, en gros. À quel moment tu dis, tiens, faut que je cherche des illus?
Ça vient... En fait, ça vient à partir du moment où tu penses que ton projet est assez mature pour franchir le pas. Déjà, les premières illus dont tu as toujours besoin ou tu auras toujours besoin, c'est quand tu as décidé, quand tu as figé tes prêts-tirés. Il y a un moment donné où tu vas peut-être faire des prêts-tirés. Et tu as besoin d'illustrer les prêts-tirés parce que souvent, les prêts-tirés sont le premier pas d'un joueur néophyte ou non, d'un joueur néophyte de ton jeu vers ton jeu. C'est-à-dire que c'est la première porte d'entrée. Tu vas jouer un mercenaire, tu vas jouer un paladin. Et un paladin dans mon univers, ça ressemble à ça. Et il a une image du paladin. Voilà. Ça, c'est aussi bête que ça. Donc ça, c'est souvent les premières illustrations que tu demandes. Tu ne demandes jamais la couverture du bouquin en premier. Parce que ça se trouve...
Sauf quand t'es moi.
Voilà. Non, mais ça se trouve, tu vas avoir... Tu vas la faire sous Paint après. Voilà. Moi, la couverture de Robot, je l'ai faite avec Illustrator. La couverture de Vivere, pareil. Voilà, j'ai pas commandé d'illustration. J'ai réutilisé des visuels que j'ai vectorisés, etc. Donc j'ai bidouillé des trucs, mais j'ai pas racheté d'illustration. Pour la couver, j'ai commandé une illustration. Parce qu'après, d'un point de vue éditorial, d'un point de vue découverte du bouquin, la couverture, c'est quand même essentiel à la promo du bouquin. Puisqu'après, ça va te servir de visuel pour les flyers. Enfin, les flyers, on n'en fait plus de flyers aujourd'hui.
C'est pas très eco-friendly, on va dire, mais je pense que ça se fait encore.
Mais... Ouais, ça se fait encore, mais je veux dire, c'est... Dans le jeu de rôle, c'est devenu un peu... sauf s'ils sont utiles dans le jeu. Des flyers pré-tirés, attention. Non, mais c'est utile pour faire des bannières, c'est utile pour faire des affiches pour Facebook, etc. Quand tu vas à un événement, quand tu annonces un truc, c'est toujours utile.
Puis même pour parler du jeu, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple quand tu as une couverture ou un semblant de couverture.
C'est ça. c'est la grosse différence. Non, puis après, de fil en aiguille, tu commences à faire ton fichier de mise en page, parce que ton texte, faut bien que tu le mettes quelque part, quand tu commences à préparer ton truc, et puis finalement, tu tu décides à mettre des illustrations. Mais après, il y a des jeux qui n'ont pas besoin d'illustrations. Tu vois, il y a des jeux très courts qui n'ont pas besoin d'illustrations.
Ah, mais ça, c'est sûr. Mais après, ça dépend de la taille du jeu. C'est sûr que Run Die Repeat, le jeu, il est en une page. Tu pourrais éventuellement mettre une, mais je vois même pas l'intérêt parce que c'est un jeu qui joue dans n'importe quel univers, de n'importe quelle manière. Tu mettrais une image. Je me demande si ce serait pas contre-productif parce que tu mettrais une image un peu trop mettre fan. Les gens penseraient qu'il faut faire des. Enfin, je pense que c'est pire
c'est
que
la mise en page. C'est la mise en page qui doit parler à ce moment-là.
Ouais.
La mise en page doit refléter la mécanique de ton jeu. Enfin, ça doit évoquer quelque chose. Enfin, surtout pour les jeux en une page. Ça, le problème, c'est que les jeux en une page, ils ont ce double emploi d'être aussi communicatifs sur leur système, parce que c'est là-dessus qu'on va les juger en fait, pas sur leur univers. T'as pas le temps de développer un univers.
Non, en une page, tu peux donner des clés, des mots-clés, mais c'est tout.
Voilà.
Et du coup, tu dis que tu mets dans ton outil de mise en page InDesign, j'imagine, parce qu'il faut bien le mettre quelque part. Tu le prépares pas en amont. T'as pas un Google Doc ou un Word avec ton vrai texte et puis ensuite tu copies-colles dans ton outil de mise en page.
En fait, je faisais ça avant. C'était ma méthode d'avant. Alors, je sais que c'est pas la méthode habituelle. Je sais que quand t'es auteur et que tu transmets ton texte pour les corrections et pour la mise en page, oui, il faut bosser sur Word, enfin Word ou compagnie quoi. Comme ça, le mec ou la nana hein, qui vont faire la mise en page, ils vont récupérer le texte et le faire couler dans la mise en page. Voilà. Et moi, comme je fais directement la mise en page parce que c'est à moitié mon boulot. Et je tape directement dans InDesign, je ne me casse même plus la tête. De toute façon, les correcteurs d'orthographe, ils passent dedans aussi, donc j'esquive une étape.
Ouais, ça te fait, t'as une étape en moins, quoi.
Voilà, mais c'est pas une grosse étape non plus.
Non, mais du coup, tu sauvegardes tout ça ?
Ah
oui. Je veux pas être un oiseau de mauvaise augure, mais si le répertoire que j'ai vu tout à l'heure est... Ah, tant mieux.
Tout est là. De temps en temps, je fais des rares et je les mets sur un serveur.
Ouais, c'est pas automatique du coup ça.
Mais non. Non, pas pour moi. Voilà.
Ouais, du coup, c'est vraiment pour récapituler, c'est vraiment au fur et à mesure que tu vas te chercher des illustrations du coup et les mettre dans la mise en page.
Ouais. Mais après, il faut avoir un sacré suivi parce que là, tu vois, pour New York Mistake, il va y avoir j'ai pu compter 60 illustrations, je crois, en tout. Donc, il faut avoir un fichier Excel dans lequel il y a qui fait quoi et on en est où de quoi. Donc, ça, c'est en cours, ça, c'est pas en cours, ça, c'est payé, ça, c'est pas payé, ça, c'est machin qui s'en occupe, ça, il faut encore trouver une idée, ça, tu vois.
Un vrai boulot d'éditeur, en fait.
C'est ça.
T'as jamais pensé à éditer quelqu'un d'autre que toi ? À te dire, tiens, je me lance dans l'édition de jeux de rôle,
je sais faire
la mise en page, je sais communiquer, je sais faire ceci, cela.
Ça m'est venu, mais il faut vraiment que la personne ait un projet quasiment terminé, que moi j'ai pas des semaines à passer sur ses projets à lui, et moi il faut que je passe des semaines sur mes projets à moi pour les finir. Donc ça serait compliqué d'insérer des jeux d'autres personnes dedans, sachant qu'en plus il faut être sûr de la qualité du projet, le tester soi-même, parce que je veux jouer, si j'édite des trucs, je dois les tester d'abord.
Ouais, logique. Ce que doivent faire les éditeurs logiquement.
Il y a des éditeurs qui le font pas, je pense, et on se retrouve avec des surprises. Et parce que je trouve qu'aujourd'hui il y a des aberrations qui devraient même pas sortir, même pas exister. Et donc je suis toujours surpris de voir ces choses-là arriver à grand renfort de oui, mais ça fait 35 ans que je l'écris. Voilà, je trouve qu'il y a des trucs qui, dans la pratique aujourd'hui en 2021 du jeu de rôle, il y a des trucs qui aurait dû sortir il y a 30 ans et voilà, qui ne devrait pas trop apparaître aujourd'hui. Voilà, je pense qu'on peut moderniser nos pratiques sans trahir nos mécaniques. C'est-à-dire qu'on peut continuer à jouer à Donjons et Dragons bien à l'ancienne, mais on peut donner un coup, on peut dépoussiérer un peu certaines mécaniques qui n'ont plus de sens à l'intérieur de son propre système.
Ouais, je suis plutôt d'accord. D'ailleurs, Donjons et Dragons 7ème édition a modernisé pas mal de trucs. Hein. Je sais pas si tu as joué à la dernière édition, mais rien que le avantage des avantages de cumuler, d'ajouter, soustraire des bonus pour l'environnement, juste tu lances 2 dés, tu gardes le meilleur quand tu es avantagé, c'est déjà une certaine modernité. Moi j'aime bien. Tu sens quand même que les choses évoluent.
Moi j'irais plutôt vers l'OSR, tu vois. Tu vois, genre des trucs comme Macchiato Monsters.
Oui, après c'est encore un autre délire.
Dragon de poche. Tu vois, c'est pas vraiment un autre délire, mais. on n'est pas sur les mêmes gameplays, clairement. Et moi, c'est plus des gameplays qui m'attirent. Ou alors si, mais il faut me le proposer brut, tu vois, genre un bon vieux Warhammer V1 à l'ancienne. Ce truc bien, bien sale. Il va falloir aller chercher tous les paramètres à droite à gauche. C'est un plaisir de jeu, je ne le nie absolument pas. Mais c'est vieux. Et en 2021, voilà. Pour moi, soit tu joues à un vieux jeu, soit tu joues à un jeu de maintenant. Et faire un jeu d'avant, les mécaniques d'avant en 2021, c'est un peu dommage. D'un point de vue game designer. Hein,
oui, toi tu parles vraiment au niveau pur mécanique, gameplay, game design. Anime was a mistake. Bon, moi je sais déjà pourquoi il s'appelle comme ça, mais si tu pouvais le rappeler.
Ah, pourquoi ce titre?
Ouais.
La grande question. Alors, donc ça fait partie aussi de mes grandes craintes pour la sortie du jeu. Mais j'en parlerai après. Alors, Anime was a mistake serait. Enfin, serait, non, c'est pas serait, c'est. Est une mauvaise traduction d'une interview de monsieur Miyazaki, donc Hayao Miyazaki, pas le Miyazaki de Bloodborne et Dark Souls, hein, Hayao Miyazaki du studio Ghibli, parce qu'il y a les deux maintenant, aurait dit le marché, l'industrie de l'animation japonaise est une erreur ou est un échec, ou enfin tu mets ce que tu veux derrière, et donc ça serait une mauvaise traduction de ce qu'il aurait dit. Bon, je pense qu'il a un petit peu raison et que c'est un petit peu sa pensée en vrai, parce que bon, le monsieur est quand même un artiste depuis un petit bout de temps déjà, et c'est un peu le Disney japonais comme on a pu le comparer, si on peut le comparer salement comme le font facilement les médias. Mais imagine Disney qui dit les dessins animés c'est de la merde.
Scandale.
Voilà, ça la fout mal. Donc oui, il a un peu raison, parce qu'en fait dans son discours c'est les animés d'aujourd'hui ne sont faits que pour des gens qui aiment l'animé, en fait. Ils sont pas faits dans un but créatif, dans un but de raconter une histoire précise. Ils sont faits pour plaire aux gens qui aiment l'animé. Donc c'est une industrie qui se mord la queue, en fait. C'est ça qu'il explique. Quand un studio Ghibli sort un nouveau Ghibli, bah c'est, même si ça se ressemble malheureusement, c'est très souvent une nouvelle histoire, c'est très souvent une nouvelle thématique. On essaye de faire des choses un peu nouvelles et on s'en fout de la norme manga actuelle. C'est d'accord, c'est la patte Ghibli, mais on essaye de faire des choses nouvelles. Mais bon, après, c'est comparer les films avec les séries et c'est deux marchés complètement différents. Mais dans l'absolu, voilà, monsieur le grand Miyazaki aurait dit que l'industrie de la Japanimation est une erreur. Et quand on regarde aujourd'hui, avec un peu de recul, l'ensemble de l'offre du manga, je vais faire mon pédant un peu, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent. Voilà. Et donc, mais bêtement, hein, tu vois, pour 200 trucs qui sortent, tu vas avoir, je sais pas moi, 190 trucs complètement passable, complètement moyen, mal produit, fan service à souhait, etc. Et 10 offres de qualité dans l'année. Tu as 10 trucs sur lesquels tu dis ça c'est de la qualité. Parce que soit c'est une série qui raconte quelque chose, soit parce que c'est super bien animé, soit parce qu'il y a une patte graphique. Voilà, il y aura quelques séries qui seront... Voilà. Et dans tout ce bazar... On a une industrie du goodies, on a une industrie derrière. C'est pareil pour les comics, hein, c'est pareil pour la BD franco-belge. C'est la même chose partout. Mais le fait que, voilà, comme ça, un marché qui est très en vogue, qui est très populaire, qui se rebondit au cinéma, dans le jeu vidéo, dans le cinéma, j'ai dit déjà. Mais ouais. Cinéma, je parle acteur, tu vois, live action. Ah. Comme Alita Battle Angel, comme... trucs comme ça qui sont passés, qui ont été un petit peu malmenés par la production. Voilà, moi j'avais envie de faire un jeu de rôle qui part d'un gros sentiment de nostalgie, qui a énormément de nostalgie, qui a énormément d'amour pour ce média parce que j'ai grandi avec et je vais continuer à regarder parce que j'aime ça. Mais quand même, les gars, vous déconnez quoi.
C'est quand même un peu de la merde.
Mais non, c'est pas ça, mais il y a quand même des trucs...
Un peu nul.
C'est un peu... Mais des fois, c'est nul, d'accord. Et des fois, c'est juste trop borderline pour être honnête. Et le problème, c'est que ça formate le public. Le public a trop tendance à se dire, ouais, mais c'est normal, c'est comme ça dans les mangas. Mais ça devrait pas être normal. Voilà. C'est ça le souci.
Je vais pas te demander d'exemple, j'ai envie de garder mon innocence.
Il y en a tellement. Garde-la. C'est précieux.
Ben, je crois que j'ai plus trop de questions. Si, je voulais te parler de la suite, parce qu'il y a encore beaucoup d'illustrations à recevoir, à demander, à recevoir pour finir ce merveilleux livre. Et du coup, j'imagine que tu vas pas tout faire sur tes fonds propres. Et bon, on en a déjà parlé en off, mais ouais. Je sais qu'à un moment ou un autre, tu vas devoir le participativement financer. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, mais c'est pas grave.
Je vais le participer financièrement. Oui, je vais lancer un fou lancement, comme il disait à l'époque. Je vais appeler les gens à faire un Genkidama avec leur argent pour précommander le bouquin à l'avance, avant qu'il soit livré dans leur chaumière, pour espérer récolter les fonds suffisants pour le financer, au moins financer les illustrations. C'est pas que je peux avancer l'impression, c'est tout aussi la merde, question financière, ça coûte la blinde, mais disons que si je peux au moins finir le bouquin et lancer l'impression derrière, ça sera déjà énorme. Au moins finir le bouquin, ça sera déjà énorme. Après, pour l'impression, voilà, il y a des solutions. Mais comme c'est mon but. Donc je compte faire une campagne de financement au moins pour les illustrations, au moins pour m'alléger la charge, m'avancer les frais sur les illustrations et fournir des bouquins, et après m'occuper de ça à la vente. Parce que voilà, le manga, je sais que mon système tourne, le manga ça marche, les conventions manga il y en aura encore pendant au moins 20 ans, 30 ans, 50 ans, sauf Covid-32 et voilà, et attaque de Godzilla dans nos contrées. Mais sinon je pense que le jeu est attendu par son public, et que le public qui traiterait ce jeu ne s'y attend pas encore.
C'est très beau ce que tu dis. Du coup, pour l'impression, tu utiliserais de l'impression à la demande, du coup, dans un premier temps, c'est ça le truc ?
Alors, j'ai un gros problème avec l'impression à la demande en ce moment. Donc oui, le bouquin sera dispo à l'impression à la demande, mais il y aura une version imprimée via un imprimeur pro. Parce que l'impression à la demande, dernièrement, a augmenté ses tarifs de manière exponentielle sur la couleur. Et comme le livre est entièrement en couleur, je ne sais pas.
C'est Drive-Thru qui a augmenté la couleur, non ? Ou c'est l'impression
Drive-Thru,
que Drive-Thru.
Alors, Lulu était déjà plus cher. Bien cher. Drive-Thru était en dessous, mais ils ont augmenté leurs tarifs. L'Europe, maintenant, taxe plus cher les produits qui sont importés en dehors de l'Europe, dont les UK, d'où sont Drive-Thru. Et en plus de ça, les UK, maintenant, ils ne sont plus dans l'Europe. Donc, du coup, tu as ta douane. Tu as tes risques de douane qui peuvent tomber sur la tranche. Donc, cumuler l'un dans l'autre,
ouais, l'impression à la demande, ça va être compliqué.
Donc, c'est plus rentable du tout. Mais si vous voulez pas un bouquin format, un bouquin de shonen qu'on paye, je sais pas, les 8 euros en boutique, là avec moi, vous allez le payer 40 euros. Ce qui est dommage.
Hein. Alors, je crois quelle taille d'ailleurs
Pile la taille d'un shonen. Donc 200 pages, format shonen, donc roman quoi.
Okay.
Poche. Un peu plus gros que poche. Ouais. Donc c'est vraiment très court dans l'absolu, mais voilà, mon but c'est de ressembler le plus à un shonen possible, plus ressembler à un manga moderne, et d'aller à fond dans cette thématique.
De toute façon, on pourra trancher avec les mangas.
Voilà, on pourra le ranger avec. Bon, il va être vendu. Je prévois 25 euros, parce que bon, hein, c'est un jeu de rôle quand même. C'est pas une bande dessinée, et j'ai pas un tirage à 2 millions d'exemplaires facile à faire descendre le tarif à l'unité, quoi. Voilà. Parce que si tu calcules ton manga de shonen que tu payes 8 euros en boutique, il a coûté 1 euro, 2 euros à produire. Même pas.
Ouais, ça
en fait des quantités.
C'est des sacrés tirages, je sais pas à quel point ils peuvent descendre, mais ouais, ça coûte pas grand chose. En plus, c'est en noir et blanc, toi t'es en couleur.
Voilà.
T'as une petite idée de quand est-ce que tu lanceras ça et où, ou pas encore ? C'est peut-être trop tôt.
Alors, je vise septembre. Du coup, je commencerai à faire une pré-campagne. Hey, les gens, je lance mon financement pendant le mois d'août, parce que les gens en août ils sont en vacances et puis ils auront juste à cliquer sur tiens-moi au courant. Et voilà.
Et ce sera sur quelle plateforme du coup ?
Ça sera sur Game and Tabletop.
Yeah. Impression qu'elle est vraiment bien foutue cette plateforme. Il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent. Apparemment, de ce que j'ai compris en discutant à droite et à gauche, elle facilite vraiment le travail de la du créateur ou de la créatrice.
Ouais, il y a pas mal de choses qui n'étaient pas là avant. Pour avoir commencé des financements il y a plus de 8 ans, j'en suis à mon quatrième, ça va être mon quatrième, pour avoir fait Kickstarter et Ulule, oui, ils ont fait des gros progrès. Après, je ne sais pas si Ulule a fait des progrès derrière. Je pourrais pas dire. Mais en tout cas, Game on Tabletop sont au-dessus pour l'instant au niveau proposition.
J'en profite que tu aies déjà fait plein de financements participatifs pour avoir un peu ton retour d'expérience, comment ça s'est passé sur la campagne, la congation, sur le stress que ça doit provoquer aussi de faire des financements participatifs. Si tu as 2-3 conseils pour les gens avant de se lancer dans cette aventure.
Le seul vrai conseil, c'est de... Je peux pas dire c'est d'être malhonnête. Ça, c'est faux. Mais c'est de ne jamais demander la somme exacte de ton financement. Parce que si tu as, par exemple, tu as besoin de 5000 euros pour ton jeu, chiffre comme ça au hasard, ben, il faut au moins en demander la moitié. Parce que, un, tu n'es pas sûr d'avoir les 5000 euros. Si tu as déjà la moitié, tu es déjà content. Et de deux, parce qu'en fait, enfin, ça, c'est mon avis perso. Hein. T'es toujours libre de refaire une campagne derrière, mais c'est toujours une mauvaise presse de faire une campagne qui rate. Alors que faire une campagne qui réussit, genre tu demandes 50 euros, puis tu te mets un macaron financé en 5 secondes. Ben voilà, tu vois, il y a plein de petites techniques un peu gruges dans le marketing que tu fais derrière ta com. Qui, voilà. Donc c'est plus honnête de demander pas beaucoup et ensuite de gonfler avec des paliers et des machins. Que de demander beaucoup et ensuite mettre des paliers. Enfin, beaucoup. Demander ta somme exacte et ensuite mettre des paliers. Parce qu'au pire, ta campagne, elle marche pas comme tu veux. Genre, t'obtiens que 2000 euros sur les. Enfin, que tu. Allez, 2600 sur les 2500 que t'avais demandé, mais il t'en fallait 5000. Bah, c'est quand même déjà à peu près, on va dire 2000 euros parce que t'as des frais, t'as de l'impression des machins, trucs que tu vas payer. T'as quand même 2500 euros qui sont dans ta poche et que tu vas pouvoir mettre dans le projet. C'est quand même un bon coup de pouce.
Ouais, c'est ce qu'on m'avait dit aussi quand j'avais fait la formation gratuite chez Ulule sur Lyon. Par contre, moi, le truc qui me fait un peu peur avec ça pour les créateurs, c'est que si ta campagne marche, mais qu'elle va pas au-delà si on reprend l'exemple des 2000 euros, si tu gagnes que 2000 euros à la fin de la campagne, bah, tu vas être emmerdé parce qu'il va falloir que tu produises ton livre alors que t'as pas les 5000 euros que t'as besoin pour faire le livre. Ça veut dire qu'il va falloir y aller. Enfin, c'est un pari super risqué, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez connu. Moi, à la formation Ulule, il y a déjà 3 ou 4 ans, moi, c'est ce qu'on m'avait dit de faire, que j'avais proposé des formations gratuites, j'étais allé comme ça.
Je pense qu'il ne faut pas partir avec le but cette campagne va me permettre de financer. C'est-à-dire que, contrairement à ce que tu vas écrire dans la campagne, c'est moche hein, ce que je dis, où tu vas expliquer aux gens que l'argent que tu vas recevoir va permettre de payer tel ou tel truc, tu sais très bien que tu n'auras pas assez. C'est-à-dire qu'il faut savoir déjà à l'avance, il faut se faire à l'idée que tu n'auras jamais assez avec la campagne pour financer ton projet. Tu devras toujours payer des trucs en plus. Parce que dans ta campagne, tu auras peut-être oublié un truc, ça arrive. Tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui seront trompés, donc il faudra envoyer les machins d'adresses différentes, donc ça arrive aussi. Tu auras peut-être besoin de plus d'exemplaires. Tu as peut-être prévu des goodies qui auront un tarif qui va changer parce que ta campagne, elle a été faite il y a 2 ans et que maintenant que tu arrives au but et que tu dois produire genre les dés ou que tu dois produire des écrans ou je ne sais quoi, quel truc avec, et ben le prestataire d'impression, il a fermé ou que sais-je, tu vois, tu dois trouver quelqu'un d'autre et lui, il est plus cher. Enfin,
ouais, je vois ce que tu veux dire.
Tu as plein de tracas comme ça. Donc, plus tu te mets de goodies dedans, plus tu te mets des risques financiers, plus tu mets des trucs à débloquer, type des scénarios ou un livre supplémentaire, plus ça repousse la sortie de ton projet, puisque tu dois finir ton projet et finir les extensions, si tu as prévu des extensions. Donc voilà, il y a plein d'éléments à prendre en compte qui font que certaines campagnes mettent 2 ans, 3 ans, 5 ans à sortir, alors que d'autres sortent tout de suite. Et aussi, plein de projets qui ne sortent pas parce que ben, soit ça craque, comme l'histoire d'aventure avec Maillard et compagnie, et sans détour, soit il n'y a pas assez d'argent, soit il y a un problème la vie, on appelle ça, hein, dans ta vie personnelle, il se passe un truc qui fait que tu n'es plus en mesure d'assurer le projet. Ça, ça arrive. C'est moche. Après, pour rembourser les gens, c'est coton. Mais il faut aussi prendre en compte ce truc-là. C'est que il faut essayer de pas perdre non plus les gens qui ont soutenu ton projet, parce que il y a ces risques-là. Et c'est encore plus compliqué quand tu es tout seul derrière les projets. Quand tu es une équipe, que tu es une maison d'édition, que tu as des contacts, qu'il y a des gens qui bossent avec toi de manière régulière, que tu les payes, etc., avec, je sais pas, un illustrateur, avec un maquettiste, avec des relecteurs, avec... Voilà, tu as un flow continu, il y a de l'argent, il y a des gens qui vont vite, qui font les choses bien, et donc du coup, la production va plus vite. Mais quand tu es tout seul, que tu fais ça avec des gens qui sont bénévoles, on va dire, sur ton projet, genre les relecteurs pour mes projets, par exemple, tous les relecteurs sont bénévoles, et je les remercie énormément là-dessus. Par contre, les illustrateurs ne le sont pas. Le maquettiste est bénévole aussi, c'est moi. Mais voilà, c'est. Il faut prendre en compte qu'il y a des risques aussi derrière, et c'est pour ça qu'il faut pas trop chercher, trop viser la lune. Sauf, si tu t'estimes toi être le nouveau Gary Gygax, pourquoi pas. Non, mais ça arrive. Hein, il y a des gens qui sortent des jeux comme ça, ils visent tout de suite les 5 000, les 10 000 euros, et des fois ça marche, tu vois, ça marche super bien. Mais voilà, on se retrouve avec des triptyques, des trucs énormes. Et puis c'est rangé dans la bibliothèque et ça sortira jamais. Voilà. Parce qu'on a attendu 5 ans pour les jouer et la hype est passée. Et puis voilà.
C'est triste.
Il y a aussi ce phénomène-là, tu vois. Les gens ont mis 200 boules dans ton projet, ils ont attendu 4 ans, ils l'ont, mais tout le monde est passé à autre chose.
Ouais, ça c'est un truc que je trouve horrible avec les financements participatifs. Moi j'essaie de plus financer, surtout que j'ai encore 4 ou 5 financements participatifs, dont certains dont j'ai même oublié le nom. Qui attendent, tu sais, tu pledges parce que ça t'intéresse, puis après t'oublies. Moi je sais que chaque fois, régulièrement, je dois aller sur Gammon, je dois aller sur Kickstarter, je dois aller sur Ulule. J'ai même fait des trucs sur Cheese Cheese Band Band, mais ça va encore, c'est le plus récent, donc ça j'oublie pas. Ouais. Pour essayer de voir où ça en est. Et machin, du coup, toi pour animer, What's the Mistake, t'as pas prévu de palier ou Judy, du coup, tu vas faire un truc plus simple pour pas
trop. Je vais mettre un palier jaquette. En fait, je vais mettre 2 paliers. Je vais être très con. Il y aura le palier financé. Ouais, 100%. Et il y aura un palier genre à 150%, tu vois, un truc comme ça. Pour mettre une jaquette autour du bouquin. Ça sert à rien, mais ça fait encore plus manga.
Voilà à quoi ça ressemble, une jaquette. C'est ce truc-là. Ça s'enlève et puis ça permet de...
Ça sert à rien.
Ça sert à rien.
Ça protège le bouquin.
C'est plutôt joli.
Voilà. Bah, ça donne un côté qualitatif à l'ouvrage.
Et du coup, il y aura un palier jaquette. Et pas de goodies, j'imagine.
Non, il n'y aura pas de goodies.
Pas des petits dés.
Non, il n'y aura pas tout ça. Parce que qu'est-ce que tu veux faire comme des mangas? C'est quoi un des mangas?
Ça ressemble à rien.
Tu vois,
ça veut rien dire.
Et puis mettre le logo sur une face ou un machin, non. Voilà. Bon, après, il y a plein de types de dés différents. Tu vois, ça va du D4 au D12. Donc, moi, j'estime que les rôlistes, ils ont leur set de dés.
Bah, c'est set de dés Donjons et Dragons de base. Quand tu achètes un set de dés à la boutique.
Tous les rôlistes ont maintenant. Moi, j'ai des pots de confiture remplis de dés derrière moi.
Non, par contre, tu aurais pu faire une boîte à bento. T'aurais pu faire une vraie petite boîte à bento avec le logo d'Anime with a Mistake, le dessin d'un petit prêt tiré. Tu choisis ton petit prêt tiré au choix. Non,
c'est une très bonne idée, je le ferai en convention. Je me ferai une boîte à dés spéciale Anime with a Mistake pour les conventions. C'est une très bonne
idée.
Avec
ta boîte à bento.
Merci,
de rien.
Mais pour non, pour les joueurs,
c'est pas une bonne idée. C'est la merde
à faire. Je parle à mon échelle. C'est une très bonne idée marketing si tu es capable d'assurer derrière, si tu as les bons prestataires, si tu es capable de faire du stock, si tu es capable de faire les envois et tout ça. Si tu aimes aussi faire monter artificiellement le prix de ton projet, parce que le problème, et c'est à la fois un problème et à la fois on dit merci, c'est que ce qu'on disait, c'est les baleines qui font vivre le
crowdfunding.
Marché du crowdfunding. C'est les gens qui vont claquer 100 boules, 200 boules, 500 boules dans un projet.
Ouais, pour la collector, pour tous les goodies, voilà. Pour le truc sérigraphé.
Alors que ça coûte quasiment rien, tu vois, faire une sérigraphie sur un ça coûte 100 boules, 200 boules, parce que tu as X exemplaires à sortir. Donc c'est pas la mort, tu vois, de faire un vernis, tu vois, sur une jaquette. C'est pas... Foncièrement, c'est pas excessif, tu vois. Là, j'ai eu des devis. La jaquette, ça me coûte 150 euros de plus.
Ouais, quand
pour
même.
300 exemplaires. C'est rien. C'est rien.
Ouais, non, c'est...
Que dalle.
Puis ça, rendra, ça, sera vrai, ça sera vraiment chouette. J'espère voilà. Que le palier tombera.
Voilà. Bah, il va tomber. Puis s'il tombe pas, je le ferai quand même.
T'as le droit de non, faire ça.
Bien sûr. Je fais ce que je veux.
Remarque, par exemple, tu peux toujours le faire en irant de ta poche.
Ma campagne de Love Season, que j'avais faite sur Kickstarter.
C'est le jeu avec les lapins ?
C'est le jeu avec les lapins.
Le jeu de
cartes. Ça n'a pas marché. Pourtant, il est génial ce jeu, hein, tout le monde le sait. Mais ça n'a pas marché. Mais je l'ai sorti le jeu quand même. Parce que j'avais économisé, j'avais mis de côté. Voilà. Donc j'ai plein de lapins à la cave, ça se vend très bien en convention. Et voilà. Mais voilà, le financement lui-même n'a pas fonctionné. Mais ça, c'est dû à des erreurs de connaissance du marché. Ça, c'est aussi important de connaître.
Parce que le jeu de plateau, c'est pas du tout la même chose que le jeu de rôle.
On n'est pas du tout, c'est pas aussi perméable en fait au jeu indépendant qu'est le jeu de rôle, le jeu de société. Le jeu de société est moins bienveillant envers les jeux de société indépendants, donc les trucs sans éditeur ou les trucs un petit peu édités sous le manteau. C'est très très, je crois que c'est pas mal vu, mais c'est pas considéré. C'est-à-dire que bah, très souvent, les gens qui jouent à des jeux de société, bah, ils achètent en boutique. Des gros jeux, ils font des gros financements participatifs. C'est vraiment des profils de joueurs. Et t'as pas beaucoup le profil de j'achète que des jeux indépendants, j'en ai jamais vu.
Ou alors qu'on est plein à acheter principalement des jeux de rôle indépendants, quoi.
En jeu de rôle, voilà, la foule de personnes intéressées par des jeux de rôle indépendants, c'est incalculable aujourd'hui.
Avant de passer aux deux questions du public, je voulais savoir, en parlant de convention, t'as dit que ça se vendait très bien en convention, t'allais sans doute en vendre en convention avec la petite boîte marketing. Ouais. Je sais pas si t'es au courant, mais Autodone normalement se fait cette année. Moi je me suis pas encore inscrit parce que j'ai toujours peur que ça s'annule et que j'ai pas envie de me faire chier à leur demander un remboursement ou quoi. Mais est-ce que t'as prévu de venir à Autodone à Lyon en octobre 2021 ou pas encore ou pas du tout?
Non, j'y vais pas. C'est trop compliqué en fait avec le Covid, c'est trop compliqué. Tu vois, je voulais aller à Troll et Légendes qui avait aussi potentiellement lieu en octobre cette année, mais ils ont annulé pour raison de c'est trop compliqué. Donc j'y vais pas. Moi les conventions physiques, j'y retourne en 2022.
D'accord.
Et ça, c'est sûr.
Pour 2022, quoi.
Les Japan Expo, les salons fantastiques.
Mais du coup, il sera sorti, ton jeu.
Pour potentiellement, les prochaines grosses conventions. Potentiellement, oui.
Tu rajoutes un potentiellement pour essayer de te dédouaner déjà à l'avance du retard potentiel.
Tu sais pas. Tu sais pas.
Oui, la fameuse vie. La fameuse vie. Ouais, on va te souhaiter.
Merde, il y a des soirs, t'as pas envie de bosser. Il y a des soirs, t'as une série à finir de regarder.
Je touche du bois, tu vois. J'espère que ça va bien se passer.
Monsieur Dubois est ravi.
C'était nul. Merci en tout cas. Du coup, j'ai deux questions du public.
Ah, le public.
Ouais, il n'est pas très nombreux, mais c'est un public de qualité. La première question, c'était quelle est la question la plus étrange qu'on t'ait posée?
La plus étrange. Les plus étranges que j'ai, c'est un peu toujours la même. C'est le principe des joueurs qui veulent adapter leur manga préféré dans Anime Was a Mistake. Et donc la question la plus étrange qu'on m'ait posée, c'est est-ce que je peux avoir un pouvoir qui me permet de connaître le scénario? Tu veux pas faire MJ à ma place? Voilà. Donc je veux bien des pouvoirs de prescience pour voir l'avenir, tout ça, mais dit comme ça, pour connaître le scénario, ça m'a paru un petit peu abusé.
C'est un petit peu étrange. Après, je sais plus comment ça s'appelle, mais tu sais, les mangas comme Sword Art Online... Tu sais où le personnage, il est dans un jeu vidéo, il est dans un machin. Si on va très très loin, hein, c'est une vie d'esprit, faut être un petit peu fou. Mais si on part de son principe que son personnage sait qu'il est dans une partie de jeu de rôle, ouais. Tout d'un coup, le gimmick, connaître le scénario, ça pourrait avoir du sens. Mais oui,
mais je rappelle que même si tu fais jouer dans Anime Was a Mistake un isekai de jeu de rôle, ton personnage sera au courant qu'il est dans une partie de jeu de rôle. Il pourra connaître le scénario prévu par l'univers, le c'est contexte ça. Du jeu, mais le MJ, lui, il a prévu un vrai scénario oui, dans le scénario de l'isekai que tu vas jouer.
C'est ça, c'est exactement
Inception,
ça.
Inception Sekai, tu vois.
C'est ça, merci, isekai, je ne trouvais plus le terme.
Et c'est, attention, Sword Art Online n'est pas un isekai, mais c'est compliqué là. Tu arrives dans des niveaux de lecture qui sont très très des strates de la japanimation extrêmement pointues là.
On n'a pas le temps, on n'a pas le temps pour ça. Tu me le raconteras sur Discord.
Non mais voilà, il y a une difficulté, c'est de reconnaître le moment où ton pouvoir il est purement fictionnel, c'est-à-dire c'est un pouvoir dans la série que tu aimes, mais il permet d'écrire la narration comme One Punch Man. Et les vrais problèmes du scénario ne sont pas liés au pouvoir, sont liés aux problématiques du personnage. Et donc, il faut développer ailleurs le personnage pour que ça soit intéressant derrière. Donc, du coup, connaître le scénario, moi, je trouve ça un petit peu abusé. Connaître l'avenir, je veux bien donner un pouvoir qui permette de connaître l'avenir. Il n'y a pas de problème. Mais connaître le scénario, non. Enfin, le MJ a
c'est pas plutôt parce que tu prépares pas de scénario et que du coup, il n'y a rien à connaître.
Ah! Tu m'as eu. Ouais, non, avec moi, il n'y a rien à connaître. Avec moi, il n'y a rien à connaître. C'est les joueurs qui font des conneries et l'univers rebondit sur leurs conneries.
Ouais. On avait quand même une intrigue avec une vilaine sorcière et tout.
Ah, mais ça, c'est parce que vous avez fait des conneries. C'est pour ça qu'il y a une vilaine sorcière. C'est pour ça qu'elle a un bouquin. Etc, etc, etc.
Ouais, j'étais sûr qu'on était pour rien. La deuxième question et dernière question, du coup, c'est une personne qui a arrêté de lire des mangas il y a 10 ans. Et qui demande, qu'est-ce que tu lui conseilles, voilà, 10 ans plus tard, ça fait plus 10 ans que la personne n'a lu aucun manga, qu'est-ce ouais. que tu lui conseilles de lire maintenant, 10 ans plus tard, pour reprendre ce média, pour découvrir, pour lire du manga.
Ok, donc la personne a 10 ans de plus par rapport au moment où elle a arrêté. Donc j'en déduis que la personne était jeune, on va dire, donc elle lisait des trucs plutôt pour jeunes. Pour reprendre le manga aujourd'hui, dans les trucs modernes qui sortent, donc il y en a plein. Il y a Full Metal Chevalion que je conseille, qui est une série sur un héros de Sentai qui veut pas sortir de son personnage de Sentai. Bon, c'est un vrai Sentai, hein. Donc de super héros avec des casques de moto, tout ça. Il veut pas sortir de son rôle alors que les autres se sont fait une vie à côté. Donc ils ont battu les méchants, ça y est, ils ont sauvé la terre, mais lui il veut toujours être le Ranger Rouge. Mais il est au chômage
ça,
et tout.
Ça a l'air excellent.
Toujours être le Ranger Rouge. Donc voilà.
C'est l'histoire d'un anime si ou c'est juste un manga papier?
Un manga, c'est juste un manga papier.
Ouais, il y a pas d'anime
volume grand max.
Ok.
Il y a ça. Moi j'aime beaucoup Made in Abyss, mais je trouve que c'est une perte de vitesse. Mais au moins regardez le premier arc, éventuellement le deuxième arc. Que c'est des personnages tout mignons qui vont vivre des atrocités. Et juste pour le côté dungeon crawling. Donc vraiment le côté on va descendre le plus profond dans les abysses. C'est très bien fait, c'est joli, la musique est splendide, etc. La BD est très bien aussi. Mais voilà, il y a des petits dérapages. On parlait des dérapages de l'industrie au début, ça dérape un peu. Donc je conseillerais ça dans les trucs modernes. Après, évidemment, il y a des classiques indémodables qu'on peut conseiller tout le temps. Ça, je ne vais pas les citer. Mais dans les deux trucs modernes que je lirais, moi... Après, il y a Yo-Yo. C'est un peu vieux peut-être maintenant, mais c'est Pluto. Pluto, c'est le reboot... Enfin, reboot. Le remake... par l'auteur de 20th Century Boy, de Astro Boy, de Tezuka.
Oh.
Donc il a pris l'arc, le robot le plus fort du monde, et il en a fait un thriller.
Une enquête. C'est censé être mignon, Astro Boy.
Ouais,
dans mes souvenirs, c'était plutôt mignon.
Astro Boy, c'était le dessin animé de propagande pour dire aux Japonais le nucléaire c'est bien, alors qu'ils s'en sont pris deux bombes sur la gueule il n'y a même pas 10 ans, juste avant. Non mais véridique, hein. C'est vrai. J'adore Astro Boy.
J'avais jamais pensé à ça comme ça. Pour moi, Astro Boy, c'était le mignon petit robot qui aidait tout le monde et qui était gentil et qui se débarrassait des méchants.
Ah oui, mais c'est ça. C'est ça. Mais dans Astro Boy, c'est le nucléaire propre, maîtrisé, qui apporte le bonheur partout où il est.
C'est beau.
Acheter des centrales. Déjà pas. Non mais c'est ça. C'est faut pas oublier. Hein. Le manga, c'est ça. Vendre des trucs. Non, ouais, je conseillerais des trucs comme ça. Des trucs un peu... sortir du mainstream, vraiment. Sortir du mainstream, pas trop loucher, parce que les éditeurs ont tendance à pas mal éditer des trucs, m'as-tu vu, un peu fanservice, facile à vendre. Genre, la série là où t'as des mecs qui vont tester tous les bordels de races variées de la région. Bon, il y a écrit pour public averti sur la jaquette quand même, mais bon, hein, je me doute que tous les ados l'ont vu. Donc ouais, il y a des trucs qui sont super bizarres avec des filles monstres, etc. Donc ça j'éviterais parce que c'est vraiment pour ados. C'est vraiment, ça vise un public adolescent, etc. Après, si on aime, on aime, hein, il n'y a pas de problème, aucun problème. Mais voilà, si on veut trouver des mangas de qualité, il y en a, ça existe, mais il faut les chercher. Et il ne faut pas taper dans les blockbusters, parce que très souvent, les blockbusters visent un public précis, et il faut le savoir. Et en faisant ça, on arrive à trier un petit peu. Mais on peut aimer les shonen, il n'y a aucun problème, c'est génial le shonen. Il y a des trucs géniaux. Voilà.
Eh ben merci. Merci beaucoup pour cet entretien. Une dernière question. Quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose mais que je t'ai pas posée parce que je sais pas, parce que j'ai pas pensé.
Moi je m'attendais à le ça sort quand, mais
celle-là on te la pose, doit te la poser tout le temps et puis tu as plus ou moins répondu. Septembre 2021,
à la question classique quand tu crées un jeu de rôle, c'est par quoi tu commences quand tu crées un jeu de rôle? Est-ce que tu commences par l'univers? Est-ce que tu commences par les règles? Est-ce que tu commences par un scénario? Est-ce que tu commences par... voilà. Moi, c'était cette question-là que je m'attendais. Comme ça, j'aurais pu dérouler tout un sujet sur la dynamique de... Animé aux Mystèques est un jeu de rôle duquel je n'ai rien caché. J'ai montré toutes les étapes de création depuis le début de sa création. À part les sous, mais à part ça, j'ai tout montré. Les refs, le post-it originel. Tu vois, j'ai une photo avec le post-it originel des règles. Je vais vous le montrer. Je l'appelle le post-it originel parce qu'en fait, il est là. C'est le post-it sur par quoi tout a commencé.
Donc toi, t'as commencé par les règles.
Moi, j'ai commencé par les règles.
Tu me diras, ça semble relativement logique dans le sens où ton jeu, c'est surtout des règles pour émuler plein d'univers différents.
Et comme je le disais au début, on avait donc sur le post-it originel, comme on peut le voir, je l'ai pas écrit chez moi, mais ça se voit pas. J'ai écrit sur un post-it. Enfin, c'est plus gros qu'un post-it, mais ça c'est quoi? Trois post-it, ça fait ça? Deux post-it? J'avais écrit des règles comme ça. C'était pour Made in Abyss, donc on avait déjà les caracs qui étaient là. Donc il y avait combat, fouille, survie, empathie, donc les quatre caracs de base. On avait l'idée que les caracs sont définis par un niveau de dés, donc ça part de D4, ça va jusqu'à D12. Voilà, on avait un système de malédiction, blessure, fatigue. Voilà. Je ne saurais pas trop relire ce que j'ai écrit parce que c'était il y a longtemps. J'ai
l'impression qu'il n'y avait pas encore les gimmicks.
Il n'y avait pas encore les gimmicks, non. Mais en fait, ils y étaient. Ils y étaient parce que. Si je te les trouve. Voilà. Là, les gimmicks, ils étaient là. En gros, que je te décris ça. Donc là, tu as le point de fatigue. Fatigue qui te donne moins 1. Donc moins 1 niveau de dé. Qui sera retiré si le personnage se repose. La blessure qui te met moins 1 si le perso se soigne. Et la malédiction, M, moins 1 si le perso, ça ne sera jamais retiré. Et donc potentiellement, ça te donnait un dé. Alors je sais pas si c'est visible. C'est pas visible là. Mais je sais plus ce que ça donnait. Je crois que ça donnait plus un niveau de dé pour le lancer à l'époque. Et ça a changé depuis. Mais voilà, les règles étaient là, puisqu'après les gimmicks ont évolué. Mais les règles de base étaient là. On avait les niveaux de score, on avait les atouts qui étaient là. Voilà, mais c'était là. Tiens, regarde les gimmicks. Les abysses, la malédiction, c'est plus un D8, mais maudit. L'effort, c'est plus un D4, mais un point de fatigue. Parenthèse à voir, etc., etc. Là, il y avait déjà un petit tableau avec les échelles de difficulté. Voilà, c'est vraiment un post-it que j'ai écrit sur ma pause déjeuner. Alors, évidemment, j'y avais réfléchi quelques jours avant. Ça m'était venu comme ça. Puis il fallait qu'à un moment je l'écrive, tu vois, que je le pose. Et à partir de là, ben, j'en suis à mon bouquin de 200 pages aujourd'hui. Voilà,
c'est beau.
Le post-it original, ouais.
En tout cas, merci beaucoup.
Merci, Eric.
Je te souhaite plein de réussite pour ce jeu. J'ai hâte qu'effectivement il sorte, même si c'est pas avant l'année prochaine, j'imagine. Financement en septembre, et puis après, j'imagine, 6 mois, 1 an de production, le temps de...
Je vise 6 mois maximum. C'est mon objectif. Maintenant, si je me foire, je me foire. Mais mon objectif, c'est
6 mois.
Ouais,
pour ça, je dis 6 mois, 1 an. Parce que 6 mois, on va dire que c'est la durée qu'il te faudrait pour le faire complètement. Puis le 1 an, c'est voilà, si t'as des petits soucis, s'il y a des retards d'illustration, tout ce que tu
pourrais
rater.
Le bouquin est entièrement écrit actuellement. Le bouquin est entièrement écrit. Il y a un peu de trucs à modifier dans le scénar, mais toute la matière est posée. Il y a juste à relire, modifier un peu le scénar, et tout est posé. Il y a les emplacements pour les îles, etc. Donc il manque 40 illustrations que là je finance petit à petit et qui iront beaucoup plus vite parce que j'ai un illustrateur qui va te produire 3 illus par jour, c'est un truc de malade. Voilà, tu lui donnes les sous, tu mets la pièce dans le jackpot,
dans la machine, et paf,
bing, 2 heures plus tard, t'as un illus. Stop, tu vas trop vite, mec. Voilà, donc il y a des comme ça, puis il y en a, ils mettent 2 semaines, il y en a qui mettent 1 mois, il y en a qui mettent 3 mois à sortir un illus. Voilà, chacun a son rythme, et je comprends qu'ils soient chargés aussi de leur côté. C'est pour ça que ça prendra du temps, mais comme ils sont 5 à bosser dessus, je pense que ça devrait aller plus vite.
Eh ben parfait. Merci beaucoup.
Merci. Salut. Ciao.